Les rendez-vous avec Alexandra. Jacqueline Hirsch, présidente de l'association Alexandra David-Nel. C'est tout de suite. Bonjour Jacqueline.
Bonjour. Ce matin, nous allons parler de la maternité.
Les goûts bizarres des femmes enceintes, j'y croyais pas plus qu'à la Vierge. Je me suis fait en grosse et sans crainte de rêver de sushi au petit-déj. Moi, je les trouvais pas crédibles, les grignoteuses de cornichons, les bedonnantes susceptibles, hypersensibles jusqu'au nichon. J'avais, disons, de sérieux doutes quant aux adeptes de marinade. Ces vaches à lait qui broutent et broutent, des bananes frites à la moutarde, ces supposées grandes émotives qui vont faire croire à leur mari que si elles n'ont pas leur peau d'olive, elles vont pas dormir de la nuit. Je les trouvais pas très bonnes actrices, ces égoïstes ballonnées, ces pauvres manipulatrices qui croient que le monde est à leurs pieds. Celles qui pensent que de la cervelle, pour que bébé en soit pourvu, il est normal et maternel d'en bouffer deux ou trois toutes crues. Je suis tombée enceinte en octobre, et soudain je fus incapable de supporter la moindre robe sur ma belle poitrine intouchable. Je fus bien vite forcée d'admettre que bon sang, j'avais faim tout le temps. Je multipliais les recettes qui feraient jeûner les plus gourmands. Malgré mes efforts pour me battre contre ma désolante nature, un soir d'hiver, d'une voix ingrate, j'ai dit « Chérie, trouve-moi des murs ». Ce sont ces petits fruits introuvables, en plein janvier dans notre village, qui m'ont rendu méconnaissable, insupportable, une vraie sauvage. J'ai dit « Chérie, si tu respectes ce petit enfant que je te porte, tu vas nous trouver au Québec une épicerie qui en importe ». Et sous mes yeux de matrone obèse, le pauvre est parti en voiture. Il est revenu avec des fraises et j'ai gueulé « Trouve-moi des murs !» Il existe sûrement comme une mafia, un regroupement de grosses bédaines, avec à sa tête une marraine qui a le contrôle de ces fruits-là. Faut vraiment qu'il m'aime comme un fou. Il m'en a déniché une caisse. Je sais pas comment, je sais pas où. Ça a dû coûter la peau des fesses. Tant de bonnes intentions me plaisent. C'est pas que j'ai pas aimé son geste, mais il est resté pris avec sa caisse. Parce que depuis, j'ai une envie de fraise. Oh, il me vient comme une envie de passer à table. Je sais que c'est une bonne heure pour du gruau. Mais ce que je vais me faire descendre dans le tuyau plutôt, c'est un gros morceau de tarte fraise et barbe, oui. Un gros morceau de tarte fraise et barbe. Hi-ha!
Voilà, c'est une bonne introduction.
Oui, tout à fait. Donc la maternité, eh bien, c'est un sujet très important chez Alexandra David-Nel, qui est très jeune. Dans sa volonté de ne pas avoir d'enfant. Elle clame ça très jeune. Alors, les raisons, est-ce que c'est l'exemple de sa propre mère, dont elle n'a pas beaucoup de considération? Et elle écrit que sa mère ne l'a jamais aimée. Alors, j'ai pioché, bien sûr, toujours dans la correspondance d'Alexandra avec Philippe, son mari. Durant son premier voyage, elle lui écrit énormément, et même avant de partir, elle va souvent en Angleterre, elle va souvent à Paris, elle va souvent en Belgique encore. Et donc, elle écrit toujours à Philippe. Et donc, le 27 septembre 1904, elle écrit à Philippe « Toi, tu as eu une vie d'enfant, tu as joué, tu as été heureux selon ton âge, tu as eu une jeunesse, tu l'as dirigée à ton gré, vers les plaisirs de ton choix. Moi, je n'ai rien eu. rien qu'un orgueil qui était mon refuge et qui me tenait lieu de tout. C'est plus tard, le 8 janvier 1920, qu'elle écrit encore sur sa mère. « La dureté de ma mère, son manque absolu de bonté, je ne m'en suis rendu compte que très tard, étant déjà femme et ayant vu le monde. Enfant, je croyais naïvement, les éléments de comparaison me manquant, que tous les parents étaient semblables. Et je me rappelle cette pensée qui me revenait sans cesse quand j'étais fillette, « Mais pourquoi a-t-on des parents ? Comme l'on serait heureux si l'on n'en avait pas !» Et alors mon pensionnat était mon vrai home, celui où je me plaisais. Tout cela, sans doute, a été très bien pour moi, et je suis sortie de là très différente de caractère de ce que j'aurais pu être autrement. Elle dit aussi, elle écrit aussi, que même le jour de son anniversaire n'est pas un jour de fête pour elle, car, écrit-elle, il n'est en somme que la commémoration de la farce sinistre que nous ont faite nos parents en nous mettant au monde. Et puis, un autre texte, là, écrit en 1905, 24 août 1905. « Les sentiments affectueux que ma mère nourrit à mon égard paraissent s'être encore développés. Je lui suis plus étrangère que jamais, et de mon côté, je sens que le peu d'attachement que j'avais pu conserver pour elle s'est éteint devant son indifférence méchante. Tout en moi lui déplaît, comme tout lui déplaisait en mon père, je lui ressemble tant. Je me surprends ici dans ce cadre de vieux meubles où je l'ai vu vivre à répéter des mots, des phrases qu'il disait, des gestes, des attitudes qui étaient siennes. Ma mère sent ces choses plutôt qu'elle ne les analyse consciemment. Je suis la fille de l'homme qu'elle n'a pas aimé. Je suis sa fille à lui seul, malgré le sang dont elle m'a faite et le lait dont elle m'a nourri. Je suis un parasite. Voilà, mon ami, ce qui attend les femmes assez imprudentes pour chercher dans la maternité la consolation d'une union mal assortie. » Là, je pense réellement que c'est ce qu'elle pense, ça c'est sûr. Mais c'est peut-être pas la réalité. Parce que j'ai vu dans les archives de la maison d'Alexandra une lettre de Philippe à sa femme qui était très affectueuse. Et quand il va à Paris pour fêter la Troisième République, il lui écrit « Je n'ai qu'un regret, ma chère, c'est qu'une ne soit pas avec moi. » Alors on revient à cette lettre de 1905, le 24 août. Elle s'adresse toujours à Philippe, son mari. « Ah, mon pauvre très cher, croyez bien qu'il y a beaucoup de sagesse, beaucoup de prévoyance dans ma volonté de n'être pas mère. J'ai trop conscience de la mère que je serai pour risquer la terrible aventure. Mon enfant serait pour moi le Dieu qui irait à toute mon adoration. Ce serait mon espérance unique et je ne vivrais plus que pour le voir vivre la vie que je n'ai pas vécue, réaliser l'idéal que je n'ai pas atteint. Et cela n'arriverait pas, sans doute. Il se pourrait que j'ai formé un corps dans lequel serait logé un esprit qui n'est pas le mien. L'histoire de ma mère, mais intensifiée par toute la supériorité sensitive et intellectuelle que j'ai sur cette pauvre femme, dont la déception n'a su se muer qu'en rancune et en méchanceté contre l'enfant très innocente de sa déconvenue. » En 1906, elle prononce un discours devant le Congrès des femmes italiennes, qu'elle a publié ensuite avec le titre « Question pressante, la maternité », dont je vous livre quelques extraits. « En cette lutte courageuse que les femmes soutiennent contre les injustices dont elles sont victimes au sein de la société, elles ne manquent pas d'énumérer, dans les parallèles qu'elles établissent entre elles et les hommes, les nombreux sujets qu'elles ont de s'estimer les égales de leurs frères. Toutes les facultés de l'esprit, toutes les aptitudes de l'organisme sont ainsi étudiées et mises en lumière. Rien de ce qui peut contribuer au prestige de notre sexe n'est laissé dans l'ombre par les habiles et dévouées avocates de notre cause. Demain, la femme joujou, la femme esclave ne sera plus qu'un souvenir, une archaïque silhouette dont les musées de l'histoire conserveront seuls le souvenir, c'est parfait. Mais, nombreux sont les obstacles où se bute la femme, nombreux les motifs qui la maintiennent assujettie. Parmi eux, je m'empresse de le dire, la plus grande partie est fictive et doit s'évanouir devant le raisonnement. Il en est d'autres, malheureusement, fruits déplorables d'une longue évolution, difficiles à vaincre, et d'autres enfin, inhérents à notre organisme même, impossibles à supprimer. Je veux aujourd'hui parler du plus redoutable, de celui qui est la cause initiale de l'évolution qui, à travers les siècles, a lentement développé ce type féminin, si étrangement différent du type mâle, de celui auquel il semble que nous ne puissions nous résigner, la maternité. Alors ensuite, Alexandra évoque la maternité sous l'angle de l'éloquence des orateurs, la plume des écrivains, les œuvres d'art et même le christianisme, la mère glorifiée. C'était tombé d'un extrême à l'autre, dit-elle, car la maternité ne mérite ni la gloire de l'apothéose, ni la honte d'hégémonie. Elle est une simple fonction physiologique dont nous n'avons lieu ni de tirer vanité, ni de nous humilier. Incontestablement, la maternité est l'obstacle grave qui s'oppose à l'émancipation complète de la femme. La maternité est la cause initiale qui, dans les âges lointains de la préhistoire, a attaché la femme à la caverne, à l'abri de la roche, où elle veillait sur sa progéniture. C'est elle qui l'a, de plus, éloignée des chasses, des combats, de la vie active du mâle par crainte du péril pour les petits suspendus à son sein ou attachés à ses pas. C'est elle qui l'a fait tendre vers l'existence sédentaire, plus propre à l'élevage des enfants, vers cette existence retirée pour laquelle elle a perdu sa vigueur, sa hardiesse, son égalité primitive avec son mâle, jusqu'à devenir cet être de faiblesse, tout disposé à subir le joug de l'homme. L'évolution de la mentalité féminine ne s'opérera pas sans de profondes modifications dans les mœurs de notre sexe. La femme instruite, intelligente, active, trouvera tout comme l'homme de nombreux sujets qui la retiendront, qui la passionneront. La science ou l'art, la pratique d'une profession en harmonie avec ses goûts, la direction d'affaires, les problèmes sociaux et les œuvres pratiques qui cessaient à réaliser les améliorations souhaitées. Mille choses, enfin, empliront son esprit, y tenant parfois la première phrase, empêchant en tout cas qu'elle voie encore dans l'amour et la maternité la direction exclusive de ses aspirations. Il n'y aura donc qu'à nous en réjouir, sans nous en occuper davantage, si, entre cette émancipation et nous, ne s'élevait l'obstacle, l'écueil impossible à renverser, la maternité.
Elle a mis sur le mur, au-dessus du berceau, une photo d'Arthur. Rimbaud, avec ses cheveux en brosse, elle trouve qu'il est beau dans la chambre du gosse. Bravo, déjà les petits anges, sur le papier peint, je trouvais ça étrange. Je dis rien, elles me font marrer, ces idées loufoques, depuis qu'elle est en cloque. Elle se réveille la nuit, veut bouffer des fraises, elle a des envies balèzes. Moi, je suis aux petits soins, je me défonce en huit, pour qu'elle manque de rien. Ma petite, c'est comme si je pissais dans un violoncelle, comme si j'existais plus. Pour elle, je me retrouve planté tout seul dans mon froc depuis qu'elle est en cloque. Le soir, elle tricote en buvant de la verveine. Moi, je démêle ses plottes de laine. Elle use les miroirs à se regarder dedans, à se trouver bizarre tout le temps. Je lui dis qu'elle est belle comme un fruit trop mûr, elle croit que je me fous d'elle. C'est sûr, faut bien dire ce qui est, moi aussi je débloque depuis qu'elle est en cloque. faut que je retire mes grolles quand je rentre dans la chambre du petit rossignol. Qu'elle couve, c'est que son petit bonhomme qui arrive en décembre, elle le protège comme une louve. Même le chat pépère, elle en dit du mal sous prétexte qu'il perd ses poils. Elle veut plus le voir traîner autour du paddock depuis qu'elle est en cloque. Mes mains l'autre côté de son dos, je sens comme des coups de poing. Ça bouge, je lui dis t'es un jardin, une fleur, un ruisseau. Alors elle devient toute rouge. Parfois ce qui me désole, ce qui me fait du chagrin, quand je regarde son ventre et le mien, c'est que même si je devenais pédé comme un phoque, moi je serais jamais en cloque.
Donc Alexandra a quand même une solution qui est très moderne finalement, l'éducation par l'État. Elle écrit « Ce qu'il vous faut, c'est décharger des suites de la maternité toutes celles qui, pour une raison quelconque, ne peuvent ou ne veulent pas assumer la responsabilité et la charge. Ce qu'il faut à une société vraiment civilisée et consciente de ses véritables intérêts, c'est l'éducation des enfants assistée par l'État. Non pas obligatoire, notre idéal est la liberté, mais de droit pour toutes celles qui en réclameraient le bénéfice, soit temporairement, soit jusqu'à la majorité des enfants. » Alors elle écrit aussi que ce serait tout à fait possible d'aller les voir, hein, quand même, par exemple, le dimanche, hein, pourquoi pas. Mais c'est l'État qui devenait responsable de l'éducation complète des enfants. Et donc, pour Alexandra, la faiblesse des femmes, c'est bien les enfants. Elle revient encore sur ce sujet dans une lettre qui est datée de 1918. Mais où sont les beaux faiseurs de discours sur la fragilité féminine ? L'éternel blessé de ce bon monsieur Michelet. Mais quelles âneries ! Comme si la santé était une affaire de sexe. Est-ce que certains n'ont pas prétendu qu'une femme était incapable d'être députée à cause de ses périodes mensuelles? Vois-tu, elle s'adresse toujours à Philippe, en dépit des Zola et consorts, je crois que la femme qui n'a pas été mère conserve une robustesse dont la plupart sont privées. La maternité est une fonction naturelle. Elle ne devrait logiquement pas entraîner de maladies ou d'accidents. Mais l'expérience montre qu'il n'en est pas ainsi et que les grossesses démolissent les femmes. Ce que je me félicite de ma sagesse, le monde n'est pas si beau que l'on puisse désirer créer des êtres pour les y placer.
Elle voulait un enfant, moi je n'en voulais pas. Mais il lui fut pourtant facile, avec ses arguments, de te faire un papa. Cécile, ma fille, quand son ventre fut rond, en riant aux éclats, elle me dit, allons, jubile, ce sera un garçon, et te voilà, Cécile, ma fille, et te voilà, et me voici, moi j'ai 30 ans, toi, 6 mois. On est né à nez, les yeux dans les yeux. Quel est le plus étonné des deux? Bien avant que je t'aie, des filles, j'en avais eu, jouant mon cœur à face ou pile.
de la brune gagnée à la blonde perdue. Cécile, ma fille, et je sais que bientôt toi aussi tu auras des idées et puis des idylles, des mots doux sur tes hauts et des mains sur tes bas. Cécile, ma fille, moi je t'attendrai toute la nuit, t'entendrai rentrer sans bruit. Mais au matin, c'est moi qui rougirai devant tes yeux plus clairs que jamais. Que toujours on te touche comme moi maintenant, comme mon souffle sur tes cils, mon baiser sur ta bouche dans ton sommeil d'enfant. Cécile, ma fille. Cécile.
Alexandra a aussi participé à ce mouvement malthusianiste. C'était au début du XXe siècle, pour des raisons politiques. Hein. On avait besoin d'hommes, on avait besoin de soldats, en fait. Hein. C'était la revanche de la guerre de 70 que la France avait perdue. Et donc, il y avait cet esprit de revanche. Et donc, la politique favorisait au maximum une politique nataliste, pour faire des enfants qui eh bien, participeront à une nouvelle guerre. Voilà. Et donc, il y avait un mouvement malthusianiste. Et elle était intervenue en 1903 dans une conférence publique à Paris, dont le sujet était « Surpopulation, guerre et misère ». Et la grande affiche portait en sous-titre « La surpopulation est la cause primordiale et naturelle de la guerre et de la misère ». Alors, elle intervient donc dans cette conférence publique et ensuite, elle va publier son texte dans une revue qui s'appelait Régénération, qui avait été créée par Paul Robin, qui était un féministe. Ça existait même au début de ce XXe siècle. Pour la limitation raisonnée des naissances, ce qui a franchi la femme de l'esclavage naturel de la fécondité. Et donc, elle intervient dans cette conférence publique à Paris. On trouve ça sur la presse de l'époque. La distinguée présidente, Madame Myrial, vous savez qu'elle utilisait très souvent des pseudonymes, notamment quand elle était cantatrice, et là, elle se fait beaucoup appeler Madame Myrial. Elle disait que c'était pour ne pas porter préjudice ou ombre à son père, qui lui aussi, à un moment, était devenu ce qu'on appelle aujourd'hui pigiste, qui écrivait dans les journaux. Donc, la distinguée présidente, Madame Myrial, a ouvert la séance en prononçant le discours suivant. « Camarades, la présence ici d'une femme occupant la place du président vous a sans doute fait penser que cette réunion avait un but très différent des réunions ordinaires. En effet, nous ne venons ce soir solliciter vos suffrages pour aucun candidat. Nous ne venons pas vous entretenir de politique. Pour ma part, je ne soulèverai aucune question transcendante et avant de donner la parole aux amis qui sont à mes côtés, je vous parlerai tout simplement de bonheur. Singulier sujet, n'est-ce pas? Vous vous étonnez sans doute et peut-être même quelques-uns parmi vous sont-ils prêts à sourire, à railler. Attendez. Il n'y a pas à nier que la question de la famille, que la question des enfants, ne viennent en première ligne dans cette recherche du bonheur. Nous n'avons pas besoin de faiseurs de statistiques, d'économistes, de politiciens, pour savoir que là où le père gagne à peine de quoi donner le strict nécessaire à un ou deux enfants, ce sera la misère noire, le désespoir affreux, s'il lui faut en nourrir cinq ou six. Vous savez tous bien que moi encore, combien il coûte pour élever convenablement un enfant, lui donner ce qui lui est nécessaire, lui laisser le temps suffisant pour s'instruire. Et vous, les femmes, vous savez toutes aussi quelles sont les souffrances de la maternité. Vous savez quelle gêne, quelle entrave qu'elle est pour notre sexe. Vous savez quels sont les risques mortels auxquels elle nous explose et nous expose. Devant cette situation, il se trouve des gens assez inconscients ou assez malfaisants pour vous dire « Faites-nous des enfants, nous manquons de soldats. Faites-nous des enfants, nous n'avons pas assez de bras. » Une transformation sociale sérieuse nécessite des esprits éclairés, des volontés fermes. Elle demande des individus qui ont le temps de s'instruire, le temps de penser, des esprits conscients de ce qu'ils veulent et résolus à se le donner. Ce n'est point le nombre des individus qui est en jeu, mais leur valeur. Soyez conscients de vos droits, chassez de vos esprits les préjugés, les superstitions, les fausses morales, les faux respects, tous les mensonges qui ont pour but de courber un homme devant un autre homme. Vous serez toujours aussi nombreux.
Quand Isabelle dort, plus rien ne bouge. Quand Isabelle dort au berceau de sa joie, sais-tu qu'elle vole la coquine, les oasis du Sahara, les poissons dorés de la Chine et les jardins de l'Alhambra. Quand Isabelle dort, plus rien ne bouge. Quand Isabelle dort au berceau de sa joie, elle vole les rêves et les jeux d'une rose et d'un bouton d'or pour se les poser dans les yeux, belle Isabelle, quand elle dort. Quand Isabelle rit, plus rien ne bouge. Quand Isabelle rit au berceau de sa joie, sais-tu qu'elle vole la cruelle, le rire des cascades sauvages qui remplacent les escarcelles des rois qui n'ont pas d'équipage. Quand Isabelle rit, plus rien ne bouge. Quand Isabelle rit au berceau de sa joie, elle vole les fenêtres de l'or qui s'ouvrent sur le paradis pour se les poser dans le cœur, belle Isabelle, quand elle rit. Quand Isabelle chante, plus rien ne bouge. Quand Isabelle chante au berceau de sa joie, sais-tu qu'elle vole la dentelle tissée au cœur de rossignol et les baisers que les ombrelles empêchent de prendre leur vol. Quand Isabelle chante, plus rien ne bouge. Quand Isabelle chante au berceau de sa joie, elle vole le velours et la soie qu'offre la guitare à l'infante pour se les poser dans la voix, belle Isabelle, quand elle chante.